SDG. Vous savez que le compositeur Jean-Sébastien Bach, que beaucoup tiennent pour le plus grand compositeur de tous les temps, écrivait ces trois lettres sur les partitions des morceaux qu'il a laissés. Il s'agissait des initiales de la formule « Soli Deo Gloria »,« À Dieu seul la gloire ». Jean-Sébastien Bach, qui était un croyant, un luthérien pieux de la même foi que la nôtre, avait repris ce qu'on peut appeler un slogan de la Réformation, « À Dieu seul la gloire ». La Réformation du XVIe siècle, qui a été un mouvement de retour au centre du message biblique et de purification du christianisme, dont nous sommes les héritiers, avait fait de ce thème de la gloire qui revient à Dieu seul, un thème tout à fait central. Le mot de gloire revient très souvent dans l'Écriture. Il revient aussi très souvent dans nos cantiques. Et je ne sais pas combien de fois nous l'avons répété depuis le début de ce culte. Et pourtant, je crains qu'il ne corresponde pas à une idée bien nette et précise dans beaucoup d'esprits. On dit la gloire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la gloire? Qu'est-ce que c'est que la gloire? Nous nous disons à Dieu seul la gloire, à Dieu seul et à l'agneau qui est Dieu lui-même venu pour notre salut. Que signifie la gloire de Dieu, qu'à lui revient la gloire? Le petit Robert, il y a toujours un Robert dans notre vie, comme selon le slogan, le petit Robert définit la gloire comme une grande renommée. Il y a encore deux autres sens, mais l'un, c'est celui de l'expression la gloire, de avoir la gloire, d'avoir fait ceci ou cela, et le troisième sens, c'est par extension la personne qui fait la gloire d'une région, d'un pays, d'une famille. Donc le sens qui peut nous intéresser, c'est le premier, une grande renommée. Vous atteignez la gloire quand tout le monde parle de vous, quand votre nom est sur toutes les lèvres, sur tous les écrans, quand vous prenez dans la rue, vous vous faites assaillir par des demandeurs d'autographes, quand vous sortez et qu'une forêt de micros et de caméras se dresse devant vous, voilà, c'est la gloire, c'est la gloire. Ce sens de la grande renommée n'est pas absent de l'Écriture. La reconnaissance de la valeur que mérite quelqu'un et cette connaissance répandue partout, oui, c'est une composante. Mais je crois que l'idée biblique de la gloire et de la gloire de Dieu est beaucoup plus riche. Il y a encore d'autres composantes qu'il vaut la peine de considérer. Et je vous invite donc à chercher dans l'Écriture ce qui peut constituer la gloire de Dieu et ce que peut signifier à Dieu la gloire. J'aurais pu choisir pour étudier ce thème une multitude de textes de l'Écriture. J'ai dû faire une sélection et je vous invite donc à en lire brièvement quelques-uns. Le premier d'entre eux se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, qui est un prophète de la gloire de Dieu, à coup sûr. Et au chapitre 48 du livre d'Ésaïe, les versets 9 à 13, nous présentent un aspect de ce thème, et c'est Dieu lui-même qui parle. Ésaïe 48, 9. « À cause de mon nom, je suspends ma colère. » À cause de la louange qui m'est due, je me contiens envers toi pour ne pas te retrancher. C'est à Israël que Dieu parle, Israël qui s'est rendu coupable. Je t'ai fait fondre, mais ce n'est pas pour de l'argent. T'ai éprouvé au creuset de l'affliction. De moi-même, j'agirai. Comment me laisserai-je profaner? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, Israël, toi que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier, c'est ma main qui fonde la terre, c'est ma main droite qui a tendu le ciel. Je les appelle et ensemble ils se présentent. Second passage dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 17. Il s'agit de la fin de la prière qu'on appelle souvent la prière sacerdotale de Jésus. Ce nom n'est pas dans la Bible même. C'est parce qu'on a eu l'impression, au XVIIe siècle, un théologien qui s'appelait Kitreus, c'est parce qu'on a eu l'impression que Jésus y parle comme le grand prêtre qui présente son peuple au Seigneur, ses disciples, sa communauté à Dieu. Donc, il adopte le rôle, la fonction du grand prêtre. C'est parce qu'on a eu cette impression qu'on a appelé cette prière du chapitre 17 de l'Évangile de Jean, la prière sacerdotale. Et Jésus l'achève dans les versets 20 à 26 par ces mots. Il s'adresse donc à son Père, à Dieu. « Ce n'est pas seulement pour ceux-ci, les apôtres, que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, c'est-à-dire nous, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. » Qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ceux que tu m'as donnés, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire. Celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu, et eux ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux comme moi en eux. Le troisième passage se trouve dans la seconde épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il s'agit d'un passage où Paul explique aux Corinthiens, aux chrétiens de la ville de Corinthe qui étaient venus à Jésus-Christ par son ministère, quelle est à ses yeux la gloire du ministère qu'il a reçu de Dieu. Il le compare au ministère de Moïse sous l'Ancienne Alliance. Et il souligne que la gloire du ministère apostolique est encore plus grande. Je lis des versets 6 à 18. C'est Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. La lettre, c'est la lettre de la loi gravée sur les tables de pierre, comme les versets qui précèdent l'indiquent. Il s'agit de la loi en tant que loi, qui déclare qu'elle est l'exigence divine, elle tue parce que nous n'atteignons pas le niveau de ses exigences. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, comment le ministère de l'Esprit ne le sera-t-il pas à plus forte raison? Si le ministère de la condamnation a eu la gloire, à bien plus forte raison le ministère de la justice abonde-t-il en gloire? Et sous ce rapport, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié à cause de cette gloire plus éminente. Il veut dire que la gloire de Moïse est presque rien à côté de la gloire de la Nouvelle Alliance. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est-il entouré de gloire. Ayons donc une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais leur intelligence est devenue obtuse. En effet, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture publique de l'Ancienne Alliance, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît que dans le Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, Là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en la même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur, qui est esprit. Et puis un dernier verset, dans cette série de lectures, dans la première aux Corinthiens, cette fois, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 31. L'apôtre Paul vient de discuter de la question des viandes qui se vendaient au marché, mais qui avaient été sacrifiées devant des idoles dans les temples païens, dans cette ville grecque. Et il leur a donné des directives, et il conclut au verset 31 du chapitre 10, « Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Jusqu'ici, notre lecture de divers passages de l'Écriture. Pour saisir ce que l'Écriture met sous ce mot de gloire, il est utile de revenir aux images originelles. Beaucoup de mots sont au départ des métaphores, des images. Et c'est le cas pour le mot pour la gloire dans l'Ancien Testament, en hébreu donc, et le mot pour la gloire dans le Nouveau Testament. Il est intéressant pour nous de le rappeler. Le mot que l'Ancien Testament utilise, et qui est généralement traduit « gloire » dans nos traductions, signifie le poids, la pesanteur, la lourdeur. Être quelqu'un de glorieux, pour la pensée des Israélites, donc qui parlaient hébreu, c'est avoir du poids aux yeux des autres. Quand on dit quelque chose, eh bien, ça fait pencher la balance du côté qu'on a choisi. La gloire, c'est cette reconnaissance que les autres vous donnent de l'importance que vous avez. Le mot pour le mépris, c'est au contraire le mot qui évoque la légèreté. Oh, celui-là, on la voit balader comme une miette, il n'a pas de poids. Nous gardons un petit peu quelque chose de cette façon de concevoir la gloire quand nous parlons des poids lourds, hein, les poids lourds de la politique, par exemple. Ce sont des gens qui sont considérés comme glorieux, importants. Et la gloire de Dieu, donc, c'est le poids de Dieu. Et il y a une remarque très intéressante dans un livre de cet auteur chrétien, C.S. Lewis, celui des Chroniques de Narnia aussi, mais c'est un auteur chrétien. Il dit « Nous devrions concevoir l'esprit comme plus lourd que la matière. » Dieu est esprit, mais ça ne veut pas dire quelque chose de vaporeux qui s'évanouit. Quelqu'un a dit un invertébré en forme de gaz. Dieu est esprit, cela veut dire un être plénier, une densité d'être suprême, infini. Dieu a le poids suprême et c'est là sa gloire que nous célébrons. Donc c'est une première composante du sens. Mais l'Ancien Testament ne reste pas enfermé dans l'image originelle du poids que je viens d'expliquer. Il associe le terme à beaucoup d'autres, et à beaucoup d'autres qui souvent évoquent la grandeur et la splendeur. Et il y a un passage que j'ajoute encore à mes lectures, dans le premier livre des Chroniques, qui nous montre quels sont tous les mots qui peuvent aller avec celui de gloire. Il s'agit d'une prière que David prononce au premier livre des Chroniques, chapitre 29, versets 11 et 12. « À toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Seigneur, le règne, à toi de t'élever souverainement au-dessus de tout. » C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et fort. La gloire est associée à tous ces autres termes et à l'image clé fréquente de Dieu comme lumière. Le Seigneur seul est ma lumière. Dieu est lumière. Voilà un thème biblique fréquent qui est aussi très proche de l'affirmation « la gloire appartient à Dieu ». Et il y a un usage assez spécial qui est en rapport avec cette association de la gloire avec l'éclat, ce qui brille, étincelle. Le terme de gloire du Seigneur est employé pour un signe visible que Dieu avait accordé aux Israélites au moment de l'Exode. La colonne de nuée, le nuage, est appelée la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, ça devait être, puisqu'il est question de colonne, un peu comme ces nuages terrifiants qu'on voit dans des images de tornades. Je ne sais pas si vous avez vu, parfois, vous avez une espèce de colonne noire. Cette colonne symbolisait la présence de Dieu et elle devait être ravagée d'éclairs qui éclairaient tout alentour pendant la nuit. Car pendant la nuit, c'était comme une colonne de feu. Vous avez une image là d'un super orage, le nuage noir de la tornade, et ces éclairs de partout, colonne noire et flamboyante à la fois. Elle est appelée la gloire du Seigneur. Elle est intervenue déjà dans l'Exode pour protéger les Israélites des armées égyptiennes qui les poursuivaient. Ensuite, elle les a guidés tout au long de leur pérégrination dans le désert. C'est la gloire qui a consacré le tabernacle, la tente sanctuaire de Dieu. Cette gloire est venue pour montrer que Dieu voulait habiter dans ce tabernacle. Et par la suite, elle a fait de même pour sanctifier le temple que Salomon avait bâti. Monsieur Huzer a tout à l'heure évoqué cette construction du temple par Salomon. C'est encore la venue de la gloire du Seigneur qui a marqué la consécration de cet édifice au service de Dieu, parce que c'est la maison de Dieu où Dieu habite. La gloire, signe de la présence de Dieu, avec cette association très intéressante de la lumière, mais aussi de l'obscurité. Et d'ailleurs, Salomon a dit, lors de sa grande, en prononçant sa grande prière de consécration du temple, Dieu a dit qu'il habiterait dans l'obscurité. Alors Dieu est lumière, mais dans l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette association du noir, du nuage et de l'éclat de la lumière. Je pense que cela veut dire, entre autres au moins, deux choses. D'abord que cette lumière de Dieu n'est pas simplement à notre disposition. Nous ne maîtrisons pas le mystère de Dieu sous prétexte qu'il serait lumière. Nous ne sommes pas capables de déchiffrer toutes les énigmes, de comprendre toutes ses voies. Dieu demeure mystérieux. S'il se révèle à nous, c'est selon son libre vouloir. Il est souverainement libre de se faire connaître, d'où l'association, malgré tout, de l'obscurité à la lumière, dans sa révélation même. Et puis, deuxième pensée, il me semble qu'on pourrait dire que c'est sa lumière même qui, pour nous devient obscure, par excès de lumière. Chacun le sait, rien n'aveugle autant qu'une lumière trop forte. Elle éblouit, on n'y voit plus rien. La lumière de Dieu est tellement au-dessus de toute lumière que l'on puisse concevoir qu'elle nous éblouit. Et il faut qu'il la tempère, qu'il la filtre pour que nous puissions la supporter. La lumière de Dieu est au-delà de toute lumière que nous pouvons imaginer. Il y a une formule d'un poète anglais du XVIIe siècle, décidément je suis au XVIIe siècle aujourd'hui, qui je trouve très frappante. Il dit, la lumière, et là il parle de la lumière au sens ordinaire, est l'ombre de Dieu. La lumière est l'ombre de Dieu. La lumière de Dieu est tellement au-delà de toutes nos lumières qu'il faut dire que nos lumières, les lumières créées, ne sont encore que de l'ombre par rapport à la lumière de Dieu. Mais cette lumière de Dieu étant tellement infiniment au-dessus de tout ce que nous pouvons supporter, alors elle peut apparaître aussi comme obscurité. D'où le sombre nuage dans le signe de sa présence. Et c'est aussi cette gloire du Seigneur sous la forme de la colonne de nuée qui venait s'entretenir avec Moïse. Nous avons lu dans la seconde épître aux Corinthiens le passage qui fait allusion à ce que nous raconte le livre de l'Exode. Moïse, après que le peuple s'était détourné, avait un privilège unique de communion avec Dieu. Et il allait le rencontrer dans la tente, le tabernacle. Et là, il était seul à seul avec Dieu. Et il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Et ce qui marquait la présence de Dieu, c'était cette colonne de nuée à la porte. Elle était là pour bien montrer que Dieu était là. Et ce que nous raconte le récit de l'Exode, et que l'apôtre Paul rappelle, c'est que lorsqu'il ressortait de ces moments d'entretien intime avec Dieu, ce Dieu de lumière incréée, infinie, bien là, la peau de Moïse, la peau de son visage rayonnait. Il était devenu lumineux, phosphorescent, si vous voulez. Il ressortait et il brillait de la gloire de Dieu, qui était comme contagieuse. Et alors, c'était tellement extraordinaire, tellement effrayant pour les Israélites, qu'il était obligé de se mettre un voile sur le visage. Il cachait cette gloire à laquelle il participait, parce que ce n'était pas encore le temps pour que la gloire, cette gloire soit révélée. Et ce voile est comme un symbole du caractère inachevé, imparfait de l'Ancien Testament. Ce n'était pas encore le moment que Dieu préparait, et le voile en est là un symbole. C'est pourquoi l'apôtre Paul explique que nous maintenant, nous n'avons plus le voile disparaît en Christ. Et nous sommes dans la situation de Moïse, en communion avec Dieu comme esprit, c'était Dieu comme esprit qui était en communion avec Moïse, et nous sommes aussi, nous, transfigurés comme l'était Moïse. Alors bien sûr, nous ne sommes pas transfigurés au sens corporel, semble-t-il. La peau de notre visage ne rayonne pas comme rayonnait celle de Moïse. C'est maintenant spirituellement qu'il faut prendre cette vision. Cependant, nous restons des êtres corporels et il me semble que parfois, il y a un regard, il y a un sourire sur le visage de certains qui sont un rayonnement de la gloire de Dieu. C'est corporel aussi. Dieu se révèle un rayonnement de gloire qui reflète sa gloire est aussi accordée aux chrétiens d'aujourd'hui. Voilà quelques composantes de ce qu'est la gloire de Dieu, me semble-t-il, selon l'Écriture. Et que signifie alors qu'à Dieu... Non, excusez-moi, j'anticipe un peu trop sur la suite de ce que j'ai préparé. Non, j'ai parlé de l'Ancien Testament, il faut que je parle maintenant davantage du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi une image, mais c'est justement celle de l'éclat. Le mot qui est employé signifie l'apparence, alors la grande apparence. Donc, ce qui rayonne, ce qui se manifeste. Et la gloire dont il est question dans le Nouveau Testament, la gloire qui, par exemple, a été perçue au moment de la transfiguration de Jésus par les trois disciples qu'il avait pris avec lui pour qu'ils en soient témoins, cette gloire, c'est le rayonnement, la magnificence. Et le Christ lui-même est appelé par le prologue de l'Épître aux Hébreux, le rayonnement de la gloire de Dieu, de la gloire du Père. Il rend visible, puisqu'il a pris notre chair, puisqu'il est aussi l'un de nous à travers le voile de sa chair, qui tamise cette gloire qui serait pour nous insupportable à considérer. Il révèle la gloire de Dieu. C'est en lui que nous voyons cette gloire briller, comme il a aussi été rappelé tout à l'heure, à partir du passage qui suit dans la seconde épître aux Corinthiens. Nous avons donc un ensemble d'éléments bibliques qui nous permettent de comprendre ce que la Bible veut dire lorsqu'elle parle de la gloire de Dieu. Que signifie alors qu'à Dieu soit la gloire ? Cette formule d'attribution. Il est sûr que la Bible insiste sur ce point. Dieu veut que toute gloire lui revienne. Nous l'avons lu dans le chapitre 48 d'Ésaïe. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je suis le premier et le dernier. Toute gloire revient à Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que signifie que cette gloire lui revienne, comme le commandement en est si clair? Il me semble qu'on peut dire principalement deux choses. Elle signifie que toute valeur lui soit attribuée, qu'il soit reconnu publiquement par tous comme le donateur de tout vrai bien, celui qui en est la source, celui par qui nous avons tout ce qui mérite de briller. C'est de lui que cela vient. Tout est de lui, par lui, pour lui. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Romains 11, 36. Vous voyez la logique. Tout est de lui, par lui, pour lui. Et donc, toute gloire doit lui revenir. C'est la reconnaissance de la vérité des choses. La vérité que c'est de Dieu que tout cela vient. Et puis, deuxième composante, selon l'image de la lumière, il me semble que l'idée d'un reflet par les créatures, d'une réverbération de cette lumière infinie, est aussi biblique. Comment les créatures glorifient-elles le Seigneur, lui rendent-elles gloire en reflétant cette gloire? Elles sont en quelque sorte le miroir dans lequel la gloire de Dieu se rayonne et qui lui renvoie cette image de lumière éclatante. Les créatures en général le font inconsciemment, c'est selon l'instinct que Dieu a mis en elles, et elles le font. Les oiseaux du ciel et les lys des champs glorifient le Seigneur, renvoient quelque chose de sa gloire, de sa sagesse, de sa puissance, parce qu'elles sont ces fleurs, ou ce qu'ils sont ces oiseaux. La beauté des créatures est un reflet qui renvoie à Dieu la gloire, puisqu'il les a créées. Et le propre de l'humanité, c'est de pouvoir le faire consciemment, par un usage d'une liberté qui est unique parmi les créatures terrestres. L'humanité peut renvoyer à Dieu cette gloire dans sa louange. C'est ça la louange. Oui, c'est toi, Seigneur, qui as fait toutes ces choses. À toi revient la gloire et la puissance et l'honneur et le règne, tout ce que nous avons chanté. Mais aussi par la manière de vivre. Mais aussi en étant conforme à ce que rayonne la gloire de Dieu. Quoi que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans le contexte, c'est assez clair. Dans le contexte, il s'agit de ces viandes. Vous pouvez manger de ces viandes, même si elles ont été sacrifiées à des idoles. On les vend sur le marché. L'idole, ce n'est rien. Vous glorifiez Dieu, vous lui rendez gloire, en reconnaissant que l'idole n'est rien, que c'est Dieu seul qui compte, que c'est Dieu qui a créé ces choses, que tout ce que Dieu a créé est bon. Et donc, lorsque vous usez de votre liberté chrétienne en mangeant de ces viandes que certains avaient peur de manger, vous glorifiez Dieu comme l'auteur de tout bien, comme celui qui, par sa création, a fait toutes choses bonnes. Mais en même temps, Paul a bien dit, Si cela doit faire tomber un frère, qui lui n'a pas vraiment bien compris, qui a trop de scrupules, si ça le fait tomber, alors vous vous abstenez. Là, il ne faut, pas manger. Et là aussi, c'est une façon de glorifier Dieu. Et de glorifier Dieu comme celui qui a passion des faibles, comme celui qui aime le sacrifice, le renoncement d'amour, dont il a lui-même donné l'exemple, car c'est là la gloire suprême du Seigneur. Sa gloire, c'est sa grandeur, sa gloire, c'est sa puissance, sa gloire, c'est sa sagesse. Mais au bout du compte, la gloire de sa gloire, la gloire suprême, c'est sa bonté et son amour. Et ça, il l'a dit à Moïse. Moïse qui s'entretenait avec lui, avec la gloire du Seigneur à la porte du tabernacle, à un moment a demandé à Dieu de pouvoir voir cette gloire. Plus directement encore. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit, nul ne peut me voir et vivre de face. Mais je vais quand même révéler ma gloire. Je te cache dans le rocher, dans un creux d'un rocher, et ce rocher symbolise d'ailleurs lui-même Dieu, hein, qui se fait l'abri des siens. Je te cache dans le rocher, je mettrai ma main sur toi, la gloire passera, tu pourras juste voir la gloire ayant passé. Et Dieu a fait passer sa gloire devant Moïse, ainsi protégé par la grâce de Dieu. Et il a, quelle était sa gloire? La proclamation de son nom comme le Dieu riche en bonté et en fidélité. Le Dieu qui pardonne. Voilà la gloire suprême que Dieu lui-même revendique. Il nous est donné de refléter cette gloire de Dieu. Alors il y a deux objections encore, ou deux difficultés que certains rencontrent, et je vais très brièvement les évoquer. Certains parfois sont troublés en disant, mais Dieu a vouloir ramener toute gloire à lui en disant, moi, il n'y a aucun autre, je suis le premier et le dernier. Est-ce qu'il ne donne pas un très mauvais exemple? Est-ce qu'il n'est pas là égocentrique à un point insupportable? Lui qui condamne toute appropriation de la gloire par un homme, qui condamne par exemple Babylone qui a dit moi et rien que moi, il le dit lui-même, alors est-ce que c'est pas normal? Certains s'achoppent parfois à cette difficulté. Alors je crois que nous devrions discerner la sottise de cette objection et voir bien que cette difficulté vient de ce que... quand on parle ainsi, on ne sait pas ce qu'est Dieu. On ne sait pas ce que signifie le nom même de Dieu. Si la créature ne peut pas dire « moi et rien que moi et à moi la gloire », c'est parce qu'elle n'est pas Dieu, précisément, et qu'elle est pitoyable si elle essaye de jouer le petit Dieu, pitoyable, ridicule, misérable. Que Dieu ait toute la gloire, c'est la simple vérité. La créature dépend de lui, elle ne peut pas prétendre tout ramener à elle, parce qu'elle dépend entièrement de Dieu. Mais Dieu est celui de qui, par qui, pour qui sont toutes choses. Et que signifie que toute gloire revienne à Dieu, que sa gloire remplisse l'univers? Elle signifie que lui qui est le bien, il rayonne partout. Que c'est son amour qui est la gloire de sa gloire, qui règne dans l'univers entier. C'est ça ce que signifie que la gloire de Dieu est la gloire de Dieu seul. Triomphe partout. C'est le triomphe du bien, car Dieu est le bien. Dieu est la bonté même, l'amour. Alors, ne pas vouloir que toute gloire revienne à Dieu, c'est ne pas vouloir que l'amour règne. C'est ne pas vouloir que sa sainteté établisse enfin un règne de justice et de pureté dans le monde. Et puis la deuxième difficulté, c'est, mais alors, et nous, alors, si tout revient à Dieu, est-ce que nous ne sommes pas un peu laissés pour compte? Est-ce que nous ne sommes pas rabaissés par l'affirmation que c'est à Dieu seul lui revient toute la gloire. En fait, j'ai déjà indiqué par à la suite de nos lectures la réponse à cette inquiétude. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu seul, parce que c'est de lui que vient tout bien authentique, mais elle se veut contagieuse dans sa dépendance. En lui, nous avons part à sa gloire. C'est là le projet de Dieu. Il nous associe et il nous transforme de gloire en gloire à son image, en nous accordant son esprit même. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Le projet de Dieu, c'est d'amener un grand nombre de fils et de filles à la gloire. Et il leur a donné pour cela un guide, un pionnier, le prince de leur salut, Jésus-Christ. Il nous entraîne à sa suite. Il nous fait partager sa gloire. Déjà maintenant, le secret de notre vie, et parfois par ce sourire ou ce regard que j'évoquais tout à l'heure, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, dit l'Épître aux Romains. Mais cela reste encore souvent bien caché, et puis nous n'en faisons pas assez pour que cela se manifeste comme cela devrait. Mais il nous est promis que notre corps lui-même sera semblable à son corps de gloire. Nos corps seront des corps de gloire quand le Seigneur Jésus reviendra. Et nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est, semblable à lui. Je termine en évoquant une façon de dire la chose que j'ai entendue d'un prédicateur aux États-Unis. Elle vient d'Écosse à l'origine. Imaginez la scène. Les anges au dernier jour, qui sont là, qui regardent, et qui disent, mais enfin, c'est incroyable. Mais regarde Jonathan comme il ressemble à Jésus. Regarde Diane, mais c'est tout comme Jésus. Nous lui serons semblables dans la gloire. C'est ça la gloire. Parce que nous le verrons tel qu'il est, dans sa gloire.